Donc pour commencer, on va faire un essai au niveau du son. Je vais vous
Ouais.
demander de vous présenter.
Donc Michel Bordet, agriculteur à Hennebois, j'ai 61 ans, marié, deux enfants, une fille l'aînée, un garçon et un petit-fils.
Donc on est le 27 février 2012. Voilà. Que faisaient vos parents?
Agriculteur à Hennebois, exploitation sur la commune.
Ils étaient dans cette...
Non, ils étaient dans le bas du village. Le siège d'exploitation était aux 3, aux 9 grandes rues, dans le bas du village. Ils étaient sur la ferme de mes grands-parents maternels, du côté de maman.
Et vous avez connu vos grands-parents également.
Oui.
Vous vous souvenez d'eux?
Oh, très bien, oui. Parce que j'ai ma grand-mère qui est décédée dans sa centième année, donc. Elle est décédée, enfin bon, la date exacte, je ne vais pas vous le dire parce que c'est pas mon. Les dates, je ne retiens pas trop. Enfin, j'ai bien connu hein, mes grands-parents.
Et vous viviez donc...
Les grands-parents et mes parents, et moi quand j'étais enfant, on vivait sous le même toit. C'est ce qui se faisait à la campagne. Et j'ai même connu mon arrière-arrière-grand-mère. J'avais 5 ans quand elle est décédée, mais j'ai des souvenirs d'elle. Juste des souvenirs.
Et vous êtes né à la ferme?
Oui, à Hennebois, en 1950. C'était
Donc
pas.
on essaie encore.
Oui, c'était des médecins qui accouchaient leurs clients, hein, c'est le docteur Lebeau, et puis ils étaient assistés par une sage-femme, c'était Madame Germaine, je crois, à cette époque-là.
Et vous aviez des frères et sœurs?
Oui, j'ai une sœur qui habite à Lennebois aussi, qui
Qui
est
est plus jeune, plus vieille.
3 ans de plus que moi, qui n'a pas travaillé dans le domaine agricole.
Et quelle était l'exploitation de vos grands-parents puis de vos parents?
Bon, les grands-parents, ils avaient une exploitation céréalière d'une soixantaine d'hectares en propriété. Même ils n'exploitaient pas tout parce que il y avait des terres qui étaient éloignées, qui étaient exploitées par d'autres agriculteurs. C'était à l'époque où il y avait les chevaux. Et donc il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Et puis après, mon père a récupéré des terres venant de son beau-père à Torvilliers, là, que j'ai exploité, et puis qui ont été ramenées sur l'Hennebois suite au remembrement avec l'autoroute. La 5.
Donc, quelle était l'exploitation de vos parents?
Donc, en superficie, il y avait une soixantaine d'hectares. Et il y avait aussi un peu de vaches. Hein. Il y avait une dizaine de vaches laitières qui étaient traites avec une machine à traire, mais bon, c'était le travail des femmes. C'était maman et sa maman, ma grand-mère, qui faisaient la traite. Mon père n'a jamais trait les vaches. Le matin, son premier travail, c'était d'aller curer les vaches, sortir le fumier, le mettre sur le tas de fumier à l'extérieur. Et pendant ce temps-là, les femmes faisaient la traite.
Et vous avez toujours connu les trieuses?
Ah oui, moi, oui, il y a eu la trieuse. C'était une trieuse de la marque Lorraine, je me souviens. D'ailleurs, il y a encore le support de la trieuse dans le bâtiment. Il y avait une allée de distribution pour leur mettre à manger, les alimenter avec des auges. Et puis, les vaches étaient côte à côte dans un bâtiment, dans une écurie, quoi, pour destiner à ça. Et on sortait le fumier à la brouette. Et bon, et puis après le fumier, on le menait quand le temps le permettait, dans l'hiver ou. Pour faire le blé avant l'automne, enfin fin d'été, comme ça. Et puis, comme on n'avait pas de prairie permanente, puis mon père, c'était pas sa tasse de thé de l'élevage, donc on a abandonné ça dans les années 60, 68, 70. Parce que moi je suis parti en lycée agricole, donc il n'y avait plus de main-d'œuvre pour s'occuper de tout ça, donc il a arrêté. Comment je me souviens, moi, la main-d'œuvre à cette époque-là, c'était un jeune qui venait d'assistance publique. Donc c'était des jeunes à partir de 15-16 ans qui étaient retirés de leur famille d'adoption, quoi, et qui étaient mis dans les fermes. Et mes parents avaient un jeune en contrat sur l'exploitation. Donc ils n'étaient pas très rémunérés, hein, je ne peux pas dire exactement, mais ils avaient leur argent de poche et puis on leur plaçait de l'argent sur un compte caisse d'épargne. C'était des jeunes qui venaient de l'ADOS, enfin, ce qu'on appelle actuellement l'ADOS, quoi, c'est l'assistance publique.
C'était une ferme quand même moderne, ou pas par rapport aux autres sur l'Aisne?
Ouais, ça faisait partie des grosses fermes, hein, 60 hectares à cette époque-là. Hein. Moi, j'ai connu au début, quand j'étais. Mon père a dû avoir son premier tracteur Infernal, avec le plan Marshall après la guerre. Hein. Et puis après, il avait acheté un. Moi, le Farnal, je me souviens, j'étais tout petit. Et puis là, en 1955, il a racheté un tracteur Vendeuvre, qui était fabriqué à Vendeuvre, un 33 chevaux. Et puis. Il faisait les gros travaux avec le tracteur et puis il faisait encore quelques travaux avec des chevaux à cette époque-là. Et puis après, ben, en 64, il a racheté un autre tracteur. Et puis après, bon, il n'y avait plus de chevaux, quoi.
Et on parlait de la ferme en termes de chevaux ou pas? Parce qu'on disait c'est une tente de chevaux.
Bon, je n'ai pas souvenir de ça, je ne peux pas vous dire, hein, non.
Et est-ce que le tas de fumier avait une importance à cette époque-là?
Bah, peut-être pas trop dans nos régions, puisque ce n'était pas des fermes typiques élevage, hein, je pense pas. C'était plus la surface arable en terre de culture, hein, pour faire du blé, c'était plutôt ça. Ce qui comptait, c'était plutôt le tas de blé le tas de gerbes qui était dans la grange. Moi, je me rappelle de cette époque-là où on fauchait encore avec la lieuse, mais la lieuse attelée derrière un tracteur. Et on mettait en tas et on chargeait les gerbes après pour les mettre dans les bâtiments. Aux 9 grandes rues, et puis vous avez toutes les granges là, tout était plein en gerbe jusqu'au sommet de la grange.
Et il y avait un peu de vigne.
Oui, j'ai toujours connu une vigne de 20 tares là, que mon père et mon grand-père ont planté en 1947. On m'a toujours dit ça, que c'était planté en 1947, mais il devait y avoir de la vigne avant, mais ils ont replanté une vigne là. Des cépages, ce qu'on appelle des cébelles hybrides, c'est sous numéro 54-55 greffés. C'était les nouveaux plants qui avaient été faits pour être résistants au phylloxéra.
Donc vous avez connu aussi toujours la vigne.
Ben moi oui, et je l'exploite toujours, cette vigne-là.
Et elle servait
Ben
à...
pour la famille, hein, ils faisaient du vin rouge pour la consommation de tous les jours, hein, comme il y avait du personnel, à la moisson, il y avait du monde. Puis ils faisaient aussi du cidre à cette époque-là. Il y avait des pommiers, on faisait du cidre. Et l'été, on buvait plutôt du cidre. Et puis l'hiver, plus du vin rouge, où on buvait un peu de vin rouge à la fin du repas. Mais la boisson principale, quand il y avait des travaux, c'était le cidre. Et la vigne, on faisait. Mon grand-père faisait même un petit peu de vin blanc, parce qu'il avait des cépages, Savillard, qui faisait du bon blanc, puis du rosé, mais des vins tranquilles, quoi. Et puis, je continue d'exploiter cette vigne-là. Bon, il y a eu des plans de renouveler dedans, mais toujours avec ces mêmes plants que j'achetais à la pépinière Guillaume, là, c'est en Haute-Saône. Ils font encore ces vieux plants-là. Moi, je n'ai pas voulu replanter en plants nobles, des types Pinot ou Chardonnay, parce que ce qui me gêne, ces plants-là, c'est le passage des produits pour traiter les maladies mildiou et oïdium, alors que les anciens plants sont assez résistants. Quand on fait deux, voire trois traitements, c'est tout pendant la saison, alors que les autres font faire une dizaine, quoi. Donc c'était un peu pour ça que j'ai pas planté des cépages nobles.
Et à l'époque, il y avait beaucoup de vignes ou un petit peu?
Bah, j'ai pas souvenir de production de vin vraiment commercialisé, je pense que c'était avant les années 50, hein, où l'Hennebois avait beaucoup de vignes, ben, surtout avant le phylloxéra, puis après, où il y avait des gens qui travaillaient que de la vigne, hein, pratiquement. Il y avait une famille à l'Hennebois, j'entendais dire ça de mes grands-parents chez Messager, ils avaient des grosses productions de vin qui étaient commercialisées chez les aubergistes, hein, enfin, ce qu'on appelle restaurant maintenant, ou hôtel, parce que c'était des vins d'une bonne qualité, hein. C'était du Gamay essentiellement. Mais ensuite, enfin, moi j'ai plus connaissance de consommation familiale, hein, des gens qui avaient une vingtaine d'hectares, 15 hectares ou un peu plus, 40 hectares de vignes, puis bon, qui devaient en céder peut-être à des amis. Hein, bon, moi j'étais que pendant la guerre, les gens, les souvenirs que j'ai de maman, les gens venaient de Troyes pour se ravitailler à l'Hennebois, comme on n'était pas très loin, hein, aussi bien en légumes qu'en volaille et puis certainement en vin. Hein, donc, on ne peut pas appeler ça du marché noir parce que c'était de la production qui était vendue normalement à des gens qui n'avaient plus rien à manger en ville. D'ailleurs, ça liait des relations d'amitié, des gens qui sont venus après, qui ont été reconnaissants, qui sont venus rendre visite aux parents tout le temps jusqu'à leur mort, quoi, pour les grands-parents, et puis parce qu'ils ont été reconnaissants, quoi. Quand il n'y a rien à manger, on est bien content de trouver des gens qui puissent vous alimenter.
Et donc vous êtes allé dans les années 60 au lycée à
Ouais,
Lyon.
moi je suis à l'école primaire de Lannebois. Après, je suis allé au collège de Bouilly jusqu'au brevet. Et je suis rentré au lycée agricole de la Brosse, près d'Auxerre, Venois, là. Parce que sur le département de l'Aube, il n'y avait pas à cette époque-là d'école, de lycée agricole qui faisait le brevet technicien agricole. Donc, bon, je peux me vanter, mais j'avais de bons résultats à l'école. Et même d'ailleurs, les professeurs du collège étaient un petit peu déçus que je prenne la voie agricole, que j'aurais pu passer un bac général et puis faire autre chose. Et puis quand j'ai eu mon brevet technicien agricole en 69, les profs, pareil, là-bas m'ont dit, bah, ce serait bien de faire une prépa, faire un concours pour rentrer, de faire une prépa agro ou faire au moins un BTS. Mais bon, mon père était un petit peu dépassé par le travail, comme il était tout seul sur l'exploitation. Bon, il a demandé, il tenait à ce que je vienne reprendre l'exploitation. Alors je suis revenu sur l'exploitation et je me suis installé après qu'en 76. Donc j'étais aide familiale jusqu'en 76. Donc les parents me donnaient de l'argent de poche au début pour mes sorties. Et puis quand je me suis marié en 73, je me suis même pas installé tout de suite, j'étais toujours aide familiale. Donc ils me donnaient un salaire qui était viré au Crédit Agricole, quoi, qui était placé au Crédit Agricole. D'ailleurs, quand je suis venu dans cette maison-ci, que j'ai voulu faire des travaux, le Crédit Agricole, il m'a dit, vous êtes qu'aide familiale, on ne va quand même pas vous prêter comme ça, alors qu'ils savaient qu'il n'y a pas de problème avec les parents. Mais enfin bon, ça leur faisait drôle. Parce que ça, c'était la maison de mes grands-parents. Donc je l'ai eu gracieusement par donation. Enfin, il y avait des travaux à faire dedans. Maman est née dans cette maison-ci. Donc ça a quand même une histoire.
En 68, vous n'avez pas été gêné dans vos études?
Ah si, on a eu les événements de 68, je m'en souviens très bien parce que j'étais en première. Et à cette époque-là, le BTA se passait en deux parties, fin de première. C'était un petit peu comme le bac, il y avait en première et en terminale. Mais on avait un examen en première sur toutes les matières, pas comme actuellement que c'est sur le français. Pour le bac, c'était toutes les matières, hein, phytotechnie, maths, enfin, c'était vraiment un vrai examen. Et donc on était en train de réviser au mois de mai. D'ailleurs, on nous avait renvoyé chez nous parce que les profs étaient en grève. Et puis on nous a prévenu fin mai que finalement le BTA maintenant ce serait plus qu'en une partie, ce serait qu'en terminale. Et le passage de la première en terminale se faisait sur dossier. Voilà. Donc j'ai passé mon BTA en 69. Et en 69, suite à ces événements de 68, a été instauré le bac D', c'est-à-dire un bac scientifique spécialité agronomique. Donc c'était un bac D avec en plus des matières agronomiques, phytotechnique, zootechnie, économie. Donc les gens qui étaient en terminale à cette époque-là avaient la possibilité, en faisant quelques cours de rattrapage pour les matières en matière générale, type mathématiques et tout ça, parce qu'on était un petit peu léger au niveau du niveau, quoi. Et les gens qui ont opté pour ça ont pu passer le bac des primes. Et comme il venait d'être instauré, ils l'ont donné à tous ceux qui l'ont passé. Bon, j'aurais pu le passer, je ne l'ai pas fait. J'ai passé que la moitié. Puis j'avais le résultat de mon bêta, puis sachant que je revenais à la ferme, je dis, oh, ça ne va rien me servir d'avoir le déprime, j'avais plus que l'oral à passer, puis je ne l'ai pas fait, quoi. Autrement, je l'aurais eu, quoi. Mais ça donnait une ouverture pour rentrer en fac. Celui qui. Parce que j'ai des copains qui étaient au lycée avec moi, qui ont pris le cursus de l'université après. Parce qu'on n'a pas un bon niveau en biologie, en sciences. Donc, beaucoup, enfin, quelques-uns ont pris cette destination-là, ont fait de la biologie après pour être soit prof en bio, enfin, sciences naturelles, et trucs comme ça.
Mais vous aviez des notions donc différentes de celles de votre père, par exemple. Alors, comment s'est fait la transition entre son exploitation et la vôtre?
Bah, donc, on a travaillé ensemble, hein, là, quand je me suis installé, papa avait 70 hectares, parce qu'on avait 60 au départ. Il a repris les 10 hectares que mon grand-père possédait à Torvilliers, mais qu'il avait mis en location à des agriculteurs là-bas, question d'éloignement, hein, parce qu'autrefois il y avait les chevaux, donc on n'allait pas faire 7-8 km avec les chevaux pour exploiter les champs. Donc il a eu la gentillesse de laisser ces terres-là jusqu'à la retraite des fermiers, quoi. Donc on a patienté. Donc on avait 70 hectares. Et puis mon père, ben, il a coupé la poire en deux à mon installation. 35 hectares pour lui, puis 35 hectares pour moi. Puis bon, on avait le matériel en commun. Bon, c'était une situation de fait qui était comme ça. Et puis le fait que mon père avait été ancien prisonnier de la dernière guerre, qu'il avait fait 5 ans, il y a une loi qui est apparue pour les gens qui étaient dans ce cadre-là pouvaient bénéficier de la retraite à 60 ans. Donc il a pris sa retraite à 60 ans, c'est-à-dire en 79. Donc de 76 à 79, j'ai travaillé sur 35 hectares, puis après j'ai eu les 70 hectares. Donc ça allait pour l'époque, quoi. Parce qu'on est dans une région où les terres se travaillent assez facilement et les terres ont un bon potentiel, on fait des bons rendements. Donc quand on compare les résultats à l'hectare ici par rapport au barois en grande culture, bon, on paie pratiquement le double, quoi. Donc avec une exploitation de 70 hectares à cette époque-là, c'était viable. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai la bouche sèche, s'il vous plaît. 79,
Pardon.
on est en 79, là j'avais deux enfants. Ma fille, je l'ai eu en 76, en 73, et le garçon, il est de 76. Non, non, je vais raconter. La fille de 76 et le garçon de 79. On s'est mariés en 73. Voilà. Donc, on a élevé nos enfants en se disant que on va leur laisser la possibilité de choisir leur profession. Je ne voulais pas imposer, surtout à mon garçon, de faire la culture, parce que plus j'avançais dans le temps, plus j'aimais bien mon métier, mais je regrettais un petit peu de m'être arrêté comme ça, de dire, bah, tiens, j'aurais dû continuer des études, avoir pourquoi pas, avoir fait une école d'ingénieur. Et puis j'étais assez attiré par la technique et puis la vie en coopérative. D'ailleurs, j'étais vite pris administrateur dans la coopérative. À cette époque-là, c'était la SCARM. Et je me suis dit, faut pas que je fasse comme mon père a fait avec moi, un peu imposé à devenir agriculteur. Donc, il travaillait bien, l'un comme l'autre. La fille a fait une école de commerce, elle était contrôleur de gestion, et le fils, il a fait une école d'ingénieur en génie mécanique à Compiègne. Et donc, il avait plus l'intention de revenir sur la ferme. Et puis, ça m'a pas gêné. Hein. J'ai posé la question parce que, à un moment donné, j'ai eu la possibilité de reprendre une ferme dans le secteur, un copain qui prenait sa retraite. J'ai dit, bon, bah, j'avais posé la question au garçon, j'ai dit, tu veux faire la culture ou pas? Si tu veux la faire, bon, bah, je vais t'aider, on a investi. Et puis, bon, il m'a dit non, donc j'ai pas fait la reprise, parce que ça valait pas le coup que je me charge en endettement à l'âge que j'avais. Ça fait que le fils habite à Lille et la fille a travaillé au début à Paris, après à Dijon, et puis là ils habitent en Suisse.
Et dans tout ce temps-là, l'évolution de la vigne et du champagne dans le coin, comment ça s'est fait?
Bon, disons que la vigne, c'est le statu quo parce que nous, l'Aisne aux Bois, on n'a pas eu la chance d'être recensés en 1927. Alors là, je vais vous dire ça, moi c'est ce qui m'a été dit, hein, d'après les parents, il y avait une municipalité en 1927 qui n'a pas cru au champagne, hein, à la production du raisin et du vin, parce qu'il venait de passer des années de manifestations, de temps difficiles dans les Barrois, Bar-sur-Aube, tout ça, il y avait tous les 4 matins, il y avait des manifestations dans les rues de Bar-sur-Aube ou de Bar-sur-Seine, que les gens, bah, ils vivaient pas de leur production. Et en 27, ils se sont dit, oh, bah, on va voir les Marnais, on va te racheter les Marnais. Ils n'ont pas eu cette ouverture d'esprit pour se lancer dans, enfin, au moins avoir l'appellation, alors que l'Aisne aux Bois aurait pu l'avoir au même titre que Montgueux, puisque on avait fait des démarches là, avec la mairie, avec Christian Cottinan, le maire de l'époque, et on a retrouvé des factures de moût qui étaient vendues aux Champenois pour faire du champagne à partir de moût récoltées à l'Aisne aux Bois, à partir du cépage le Gamay. Parce que dans l'Aube, ils faisaient du champagne avec le Gamay. Je pense qu'il ne s'en fait plus. Maintenant, c'est Pinot, Chardonnay et Meunier. Mais au début, il y avait des champagnes qui étaient faits avec le Gamay.
Et ça, qui vous l'a raconté, tout ça?
Ben ça, c'est les anciens. C'est un petit peu ben, ce qui se colportait, ce qui se disait dans le village. Enfin, les parents, les grands-parents, ce qui s'est dit. Hein.
Et vos parents, grands-parents, est-ce qu'il y avait un regret par rapport à ça ou pas?
Ben, je pense. Ils n'ont. Non, c'est plutôt notre génération qui a pensé à ça parce que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'exodes. Hein. Moi, j'ai connu l'Aisne aux Bois avec au moins 30 fermes. Hein. Au départ, il y avait des exploitants qui avaient. Moi, j'avais le voisin en bas qui avait 17 hectares. Il y en avait qui avaient, pareil, ils avaient 17 hectares, un peu de vigne. Ils se contentaient de peu. Hein. Ils n'avaient même pas de voiture, hein, les gens. Donc. On s'est dit, après, moi je me suis fait la réflexion, les exploitations, pour être viables, elles grandissent, et nos jeunes, bah, vont travailler à la ville. Et puis, il y a plus de ruralité dans nos campagnes, et l'appellation Champagne aurait fait que les jeunes seraient restés, parce qu'avec un hectare de vigne, on pouvait vivre décemment par rapport à une exploitation qui avait 60 hectares de terre. Hein.
Ça, c'était dans quelles années?
Voilà, je pense qu'on a réagi à ça dans les années, à partir des années 80. Ouais. Parce que, au début que j'étais au conseil, on a réfléchi un peu à ça. À chaque fois que il y avait les campagnes électorales de M. Gallet, de Rouen et tout ça, On les travaillait un peu au corps là-dessus, on avait toujours des promesses, mais qui étaient vaines, quoi.
C'était quel type de promesse ils pouvaient tenir?
Oh, bah oui, ils reconnaissaient qu'on avait des bons coteaux et tout ça, mais ça ne rançait pas beaucoup, hein. Donc, on a fait des démarches, on est allé à Épernay, chez Moët et Chandon, on a rencontré le DG, il est venu ici pour faire voir nos. On a fait des démarches avec M. Georges Royer, qui était notre conseiller général de Saint-André. On a rendu visite à ces gens-là pour faire avancer un petit peu le dossier, pour se faire reconnaître.
Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour se faire reconnaître?
Bah, à partir de un peu d'archives, de dire que l'année au bois, on avait 160 hectares de vignes avant le phylloxéra, que dans les vieux livres des vins, on retrouve l'aine au bois au même titre qu'on peut retrouver les ricés, tout ça. C'était pas de la piquette, comme on peut dire. C'était des vins qui étaient d'une certaine qualité. Donc on s'est dit, on a une richesse qui nous passe à côté, quoi. C'est dommage. C'est pas dans le but d'apporter une plus-value, mais d'amener du travail et de la richesse, du revenu à des foyers, quoi. Que d'aller entasser nos jeunes en ville et puis finalement au bout d'un moment ils reviennent construire à la campagne parce qu'ils ont quand même un petit peu le mal de la campagne.
Et vous avez résisté longtemps, vous avez essayé de travailler ça longtemps au
Comment
sein
ça?
du conseil,
Ah oui, bah, on l'a fait. Moi j'ai fait trois mandats de conseil. On a suivi à chaque fois, on en parlait dans les instances. Même au niveau de la Chambre d'agriculture, quand il y a eu le classement des terres, il y a eu une cartographie des sols sur le département de l'Aube.
C'était quand?
Oh, c'était M. Cossura qui a fait ça, c'était dans les années 80, 90, parce on a fait ça avant le passage de l'autoroute là, la cartographie a été faite là.
C'était dans quel but cette cartographie?
Connaître la pédologie des sols, hein, le sous-sol et tout ça, voir si les sous-sols correspondaient, enfin, dans le département, savoir les sols hydromorphes, les sols calcaires, les sols argilo-calcaires, et puis les sols avec les qui correspondent pour le vignoble de Champagne, quoi. Donc, je me rappelle, M. Cossuron nous avait rassuré, Lyon, vous avez des coteaux, tout ça, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, je pense que l'AOC, en ayant connaissance de ça, ont pu se pencher, on regardait ça de près, je pense.
Mais vous aviez des exemples où il y avait eu des appellations qui ont été redonnées ou qui ont été données à ces époques-là,
Ah, y a,
ailleurs?
non, 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 il n'y a pas eu d'appellation d'ordonnée. Non, non. En général, pendant toute cette époque-là, c'était les zones qui étaient en appellation, qui n'étaient pas plantées, qui ont continué à se planter. Hein. On voit bien à Montgueux. Hein. Moi, au début, Montgueux, il y avait vraiment les terres dans les coteaux, là, quand on monte la rampe de Montgueux. Et puis maintenant, on voit, c'est descendu très bas
Mais pour
dans les
l'aide, comment
côtes.
est-ce que vous pouviez avoir de l'espoir alors qu'en 27, il n'y avait rien eu, quoi?
Parce qu'on avait quand même des échos, on disait finalement la loi de 27 c'est une chose, mais les critères agronomiques et qualitatifs c'est important aussi. Donc ça nous donnait espoir. On s'est battu là-dessus après. On a dit bon 27 on a raté le coche, il faut travailler sur la qualité de nos sols, l'exposition, les productions qu'on a eues sur le village et qui était reconnu, quoi. C'était là-dessus qu'il fallait se battre.
Et depuis les années 80, est-ce qu'il y a eu des signes de changement?
Ah bah, il y a eu les gros signes de changement, c'est ce qu'on a eu vraiment dernièrement, enfin, c'est pas encore définitif, mais les 40 communes qui risquent d'être classées, on fait partie du lot, quoi. En partant de Montgueux jusqu'à Javernant, quoi, commune le Torvilliers, l'Épine, la Noboie-Souligny-Bouilly, Villeric-Avernant. Je pense que la Noboie est vraiment au centre de ces coteaux, et la Noboie avait quand même faisait partie des communes qui avaient le plus de vignes autrefois, quoi. Donc on estime qu'il y a une reconnaissance particulière, quoi.
Est-ce que ça fait une ébullition sur les Noboies ou...
Pas vraiment, moi ça me prend pas la tête, parce que moi j'ai toujours dit, moi c'est ma conception, j'ai hérité de mes parents et je tiens à transmettre ce que j'ai eu par le fruit de mon travail, bon, j'en fasse ce que je veux, je le conçois, mais quelque chose que j'ai hérité de mes parents, j'ai pas envie de le dilapider ou de le vendre. J'ai envie de transmettre à mes enfants. À la limite, si on avait l'appellation les Noblesse, je ne pense pas que mes enfants ne viendraient pas faire de la vigne, même plus maintenant. Parce que le temps que ça se mette en route, tout ça, je ne peux pas vous dire comment ça se passera. Mais à la limite, j'aimerais mieux qu'ils aient un peu de terre à vigne et puis qu'ils mettent en bail, location, à une maison ou à des agriculteurs vignerons du coin. Ou, enfin, je sais pas, ça, je n'ai pas étudié le problème pour l'instant.
Mais là, depuis qu'il y a ce pourparler de mise en appellation à la Noboie, est-ce qu'il se passe des choses à la Noboie? Est-ce que la vie de la commune change un peu?
Non, pas pour l'instant. Non, non, non. Non, ça change rien.
Mais pas
Bon,
du
si
tout.
ça. On a fait un remembrement en 92, suite au passage de l'autoroute A5 et puis la 26, là. Donc, enfin, qui passe pas sur notre commune, mais la 5 passe sur notre commune. Donc, on a remembré en totalité le finage. Et toute la partie où il y avait des vignes, ça a été remembré sur place. Les gens n'ont pas voulu partir des coteaux. Personne n'a quitté une petite parcelle, même qu'elle soit de 10 arts ou de 15 arts ou de 5 arts dans la côte, pour se retrouver en remembrement dans la plaine à côté d'une parcelle de 20 hectares. Tout le monde a conservé dans l'espoir qu'un jour on ait l'appellation, quoi. Parce qu'on susurrait ça quand même depuis un petit peu. Donc les gens, c'était un secteur qui a été difficile, et pas difficile à membrer, parce que les gens n'ont pas bougé. Donc on a fait un membrement sur place, quoi. N'y a même pas eu beaucoup d'aménagement au niveau des chemins. On a respecté les chemins qui étaient. Parce qu'en général, dans les pentes, il y a des talus qui se font naturellement, enfin naturellement ou artificiellement par l'érosion. Et donc on a maintenu ces chemins-là, donc il n'y a pas eu de bouleversement dans les coteaux.
Et donc par rapport à la parcelle et au prix, enfin le prix de la parcelle, donc les parcelles de vignes sur le département ont connu une flambée
Voilà, il y a
sans
des.
précédent. Est-ce que là, ici, il y a eu des choses qui
Oui, il y a
sont...
déjà des gens qui viennent proposer à acheter certaines parcelles. Les parcelles.
C'est qui ces gens-là?
Lançon, qui viennent. Ils sont passés chez moi. Bon, je les ai écoutés. Hein, d'ailleurs, ils doivent repasser. Moi, je me suis intéressé à ce qu'ils disaient pour ne pas être ignorant et puis savoir de quoi on parle. Parce que pas avoir des sons de droite et de gauche, erronés. Donc. Comme ça, en s'adressant aux gens directement, on sait ce qui se passe vraiment. Et bon, il m'a laissé entendre qu'ils avaient déjà acheté des vignes sur le secteur. Surtout sur la commune de Javernant, et puis une ou deux à Lennebois, une ou deux petites parcelles déjà. Des gens qui ont trouvé, bon, peut-être des gens qui ont fait le choix de vendre ça. Alors, je pense qu'ils achètent, mais ils laissent les terres à disposition du propriétaire tant que le droit de planter, enfin, tant que l'appellation n'est pas intervenue, enfin, n'est pas décidée, et que les droits d'exploitation ne sont pas. Donc, les personnes peuvent en jouir jusqu'à je ne sais pas quelle année. Bon, ils font valoir qu'ils travaillent pour dans les 100 ans à venir, quoi, pour la maison. Alors c'est Lançon et Champagne Alexandre Bonnet, les Ricey.
Mais est-ce que c'est de la spéculation?
Oui, c'est un peu la spéculation. Bah, c'est la spéculation où les gens, oui, bah, ils se disent, mes enfants reviendront jamais, ou quelqu'un qui n'a pas d'enfant, bah, tiens, t'as en profité, on va investir ça dans autre chose. Enfin, je ne sais pas, je peux pas parler pour les autres personnes. Mais bon, c'est sûr que chez certains, ça donne les. Mais moi, spécialement, ça ne me travaille pas trop l'esprit.
Ben, en fait, par rapport à ça, vous seriez plus par rapport à votre combat, non? Plus pour garder cette vigne et en faire peut-être du champagne? Ou alors, enfin,
Moi,
quel angle?
j'ai la vigne, ma petite vigne de 20 hectares, n'importe comment. Le jour ce sera décidé qu'il y a une appellation qui aura des droits de plantation, bon, je suis trop âgé pour planter, moi. Mes enfants n'ont pas la qualification. Moi, elle sera arrachée parce que c'est des vieux cépages. Hein, après, je la mettrai soit en location, ou, enfin, je jugerai, mais pour l'instant, je la laisse dans l'état, puis voilà. Et autrement, il y a d'autres parcelles. Ben, personnellement, j'en ai pas beaucoup, moi, les parcelles bien exposées, mais pour ceux qui ont des parcelles bien exposées, non plantées, bon, ben, je sais pas quelle sera leur décision. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes fils d'exploitants qui sont partis. Hein. Au village, il n'y a plus beaucoup d'exploitations.
Et ça n'intéresserait pas des gens sur le village de...
Oh, je pense que ça peut intéresser certains, hein. Mais des jeunes installés, actuellement, on n'en a pas beaucoup. Hein. Les exploitants les plus jeunes, bah, ils sont pas loin de la cinquantaine. Hein. Ils sont pas loin de 50 ans, hein. 40, 45, 50 ans. Bon, ça laisse encore des années, mais bon, entre le temps qu'on a l'appellation et puis le droit de planter, ça va être. Puis bon, il faut être prêt à faire de la vigne, on ne devient pas vigneron comme ça en claquant des doigts, hein. Il faut aimer ça aussi. Hein. C'est un autre métier que céréalier. Hein. Enfin bon, ça vaut le coup de s'en donner la peine, je pense.
Et vous, votre petite vigne, elle sert à quoi alors?
Bah, pour la consommation familiale, mais je prends ça plus pour un loisir, et puis c'est l'occasion de faire la fête le jour des vendanges. Voilà. On est à 20 hectares, on vendange chaud dans la matinée, on est 25 personnes, et l'après-midi on fait le vin, c'est la fête quoi. Et puis, bon, si je récolte du fait que c'est des vieux cépages, la vigne est plus très très productive, donc je fais pas des grosses récoltes. Alors, je fais du vin rouge et puis du rosé. Bon, c'est bien sympathique à. Bon, c'est plus pour le plaisir, quoi.
Et alors, la
Et
vigne,
quelquefois une contrainte, quand il faut aller prendre la pioche, les herber et tout ça, je dis, oh, la vigne, il y en a marre.
la qualité du vin?
Oh, bah, c'est un petit vin de pays, hein. Mais je récolte, j'essaie de récolter mûr pour avoir un vin fruité et puis qui a du degré naturel, je chaptalise pas, donc. Je récolte souvent entre 11,5 à 11,5 hein, degrés d'alcool, quoi, de sucre. Parce que j'ai du mal à accepter en champagne, c'est qu'il faut, bon, pour faire du champagne, il faut une certaine acidité. Et on a tendance à vendanger, je crois, un petit peu tôt par rapport au raisin, il n'est pas toujours, moi je trouve pas super maturité, hein, parce que c'est à la fin qu'il développe ses arômes, enfin à mon avis, hein, puis ses sucres. Donc, mais pour le champagne, il est reconnu qu'il faut pas qu'il y ait trop de sucre par rapport à l'acidité, quoi. Enfin bon, ça c'est un autre métier, moi je connais pas bien.
Et vous êtes formé pour la vinification, vous êtes formé sur le tas?
Oh oui, hein. C'est transmis de. Surtout mon grand-père, plus que mon père. Mon grand-père était plus à s'occuper de la vigne que mon père. Mon père était originaire de Bercenay-en-Othe, c'était plus les pommiers là-haut. Et c'était pas trop son truc. Il y allait à la vigne, mais pour la vinification, bon, c'était plus mon grand-père qui était porté là-dessus. Parce qu'il était originaire du coin et il a toujours eu sa vigne.
Et les premières vendanges, vous vous souvenez? Vos premières vendanges?
Oh oui, bah je me souviens, justement, quand on reprend des anciennes photos et tout ça, on se rend compte qu'il y a toute une génération qui est disparue, malheureusement. Parce que c'était des gens qui côtoyaient, mais qui étaient de la génération de mes grands-parents, qui venaient avec, je me rappelle, les anciennes voitures, hein, des C4, des trucs comme ça. Enfin, pas C4 Citroën, c'était les C4. Des vieilles Renault, des tractions, et puis c'était toujours cet esprit de fête et on s'amusait, c'était toujours très très gai. Et puis, toutes les personnes qui ont vendangé de cette époque-là, malheureusement, ils ne sont plus du monde. Et puis, les générations passant, on habite les gens de nos âges, et puis. Il y a des gens qui venaient vendanger il y a 20 ans ou 30 ans, ce sont les enfants qui sont venus, et maintenant les petits-enfants, ils perdurent un peu la coutume, quoi. Parce que c'est le côté festif, quoi. Alors qu'autrefois, je pense que c'était vraiment la boisson qui faisait qu'il y avait beaucoup de personnes sur les exploitations. Quand on faisait les moissons, tout ça, il fallait abreuver. Hein. Il y avait le cidre, et puis bon, l'eau et le vin. Je me souviens de quand j'étais gamin, les parents ils mettaient du vin avec de l'eau dans un petit tonnelet en bois, on appelait ça le baril, entouré de journal humide, et puis ils emmenaient ça. Au bout du champ pour se rafraîchir, quoi. Un petit tonneau qui faisait 2 litres, quoi, des trucs comme ça. Mais bon, il y avait du monde dans les champs, hein, pour relever les gerbes, tout ça. Ça, c'est sûr que c'est des choses que nos enfants n'ont pas connues, qui sont loin d'imaginer. Hein. Ça va tellement vite, l'évolution. Hein. Moi, ce qui me. Bon, je parle un petit peu. Sur l'agriculture, ce qui me fait peur, c'est la mécanisation, quoi. Ça a été trop vite. Et ça va un peu trop loin. Un agriculteur, ce qu'on appelle un UTH, une unité de travailleurs humains, peut faire 300 hectares tout seul. Avant, il aurait fallu, je sais pas combien de personnes, pour faire 300 hectares. Hein, il n'y a rien qui vous arrête. Les tracteurs deviennent de plus en plus puissants, tracteurs de 200 chevaux, les moissonneuses qu'il faut, je t'y mets de large. Pulvérisation sur 42 mètres, il n'y a rien qui arrête. D'un autre côté, on laisse des gens au bord de la route, quoi. Et ça fait un petit peu peur le jour où on veut s'installer, quoi. Parce que quand on est encore. Moi, j'ai 110 hectares, c'est pour ça que je n'ai pas poussé mon fils à partir sur cette voie-là. Parce que on est près de Troyes, on a le contre-coup de. Les expropriations de la ville et qui amènent un peu une surenchère sur le terre ici. Donc l'accession au foncier par la propriété, c'est exorbitant. Donc ça fait peur. Donc comme il faut de plus en plus d'hectares pour assurer le revenu d'un ménage, c'est inquiétant quand même. Quand on se compare à la Chine, j'ai fait un voyage avec la coopérative cette année, là, ils travaillent sur 1,5 hectare, ils font du blé. Bon, c'est pas. Et nous, maintenant, pour en exploitation céréalière, que ce soit au niveau du syndicalisme, chambre d'agriculture et tout ça, on dit qu'il faut s'installer sur 150 hectares minimum. Hein. Donc, j'ai installé sur 35 hectares, moi, ça laisse rêveur, quoi. Pour ça qu'il y a des jeunes aussi, un petit peu maintenant, qui s'installent sur des grosses structures. Et moi, je suis à la retraite et je me dis, tiens, ils en ont autant que moi. J'ai fait toute une carrière pour avoir. Ils démarrent sur la même surface que j'ai, ou même plus gros. Donc, d'un autre côté, on se poser question, quoi. Tout est comme ça.
Vous êtes toujours engagé.
Ben là, donc on était en société, en ERL, avec mon épouse, 50-50, parce que mon épouse travaillait sur l'exploitation. Elle me donne un coup de main à la moisson, ou quand je fais certains travaux, m'amener une benne au bout du champ, ou si je fais un semis, passer les rouleaux derrière, enfin, des choses comme ça. Et depuis que je suis en retraite, comme on a le droit d'être salarié, je suis salarié de l'ARL pour avoir un complément, pour être protégé au niveau accident et tout ça, avoir une garantie quoi, en cas d'accident. Parce que la retraite agricole, je touche 800 euros, c'est quand même pas beaucoup, hein, 815 euros. Bon, je vais essayer de faire valoir le maximum comme ça, puis après on verra dans le temps, suivant la condition physique, si j'arrête ou ben, à l'âge que j'arrêterai.
Parce que quand vous étiez aide familiale, ça compte pas, c'est ça?
Non, non, pour les cotisations, ça compte en trimestre, mais ça compte pas il n'y a pas de cotisation, hein. Donc ça n'apporte pas de points.
D'accord, bah, je vous remercie.
Ça va?
Oui. Très bien, merci. Donc pourquoi est-ce que vous avez gardé cette vie? Parce que la
Ouais.
plupart des gens n'auraient peut-être pas gardé.
Ouais, bah, il y en a qui.
Parce que c'est du travail supplémentaire.
Oui, c'est un travail supplémentaire parce que je vous dis, des fois, quand il faut aller la piocher, il y a le cagnat, c'est un travail qui est pas toujours facile. Et puis, bon, je la traite que 3 fois, mais quand on a le pulvée à dos, c'est pas du travail qui est bien agréable parce que je suis pas mécanisé pour le faire. Je fais ça comme les anciens, comme mon grand-père le faisait. Mais je perdure ça par rapport à un petit peu la mémoire, et puis pour montrer qu'il y a encore des vignes à l'Hennebois, quoi. Parce que si on n'avait plus du tout de vignes sur les coteaux, ben, on aurait peut-être pu penser à la vigne. Que là, sachant que ben, il y a les vignes, et puis que les gens sont contents de boire un petit coup de vin de Hennebois, ben, tiens, c'est sympa, c'est bon ton petit vin,
Parce qu'il
ça reste important.
y a combien d'hectares de vignes actuellement sur les nouveaux?
Vous dire exactement, il y a au moins, il y a plus de 20 producteurs, hein, plus d'une vingtaine, mais des vignes de 10, 15, 20 hectares, 30 hectares, pas plus. Donc, je pense que d'avoir 2 hectares de vignes bien faites, et puis encore quelques vignes bah, qui sont en friche, hein, que ça s'est arrêté là, qui sont encore même pas été arrachées, mais qu'on voit encore que c'était des vignes. Il y a encore les piquets, les fils de fer, mais qui sont embroussaillés, quoi.
Mais à chaque fois pour de la consommation courante.
Oui, parce que c'est de la production familiale, on n'a pas le droit de négocier, on n'a pas le droit de vendre. Hein. Bon, ou alors si on en fait profiter aux enfants, on demande un laisser-passer, un congé aux douanes pour déplacer du vin, pour emmener dans sa famille, hein, mais c'est tout. Moi, je le faisais, c'était pour les parents, j'ai ma soeur qui habite à côté, ben, tout le monde en profite un petit peu, quoi. Mais c'est plus un peu dans le respect de la coutume. Hein, et puis bon, le côté festif.
Très bien, merci.